Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro, je suis là pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Selon les spécialistes, et j'en ai parlé souvent ici à travers l'émission, les spécialistes en gériatrie sont bien précis sur la question d'activité physique qui est extrêmement importante dans la prévention du vieillissement et ce, sur une base régulière. Et pourtant, les chiffres sont plus ou moins concluants en ce sens. On dit qu'il y a moins de 30 % des personnes aînées qui font de l'activité physique. Et pourtant, le vieillissement physique et cognitif pourrait être retardé si les personnes aînées étaient un petit peu plus actives. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, affirme que les personnes âgées devraient faire environ 150 minutes d'activité physique de façon hebdomadaire. On n'y arrive pas toujours et j'avais envie de vous parler de ça en deuxième partie d'émission. Francine Lefrançois de l'organisme Santé à cœur qui a pour mission de faire bouger les aînés Srelant pour nous parler de son programme. Et puis d'abord, on apprenait aujourd'hui en fin d'avant-midi, donc c'est tout nouveau, tout chaud, la disparition du quotidien La Presse en version papier, La Semaine, qui sera remplacée dès le 1er janvier 2016 par sa version numérique La Presse Plus. Je ne sais pas pour vous à la maison, pour moi, ça a été une grande nouvelle, une bonne nouvelle aussi qui m'a amené beaucoup de fierté parce que La Presse, c'est un quotidien qui est québécois et ça deviendra par cette nouvelle un leader de l'information partout dans le monde, de l'information numérique, mais aussi une fierté parce que ça prouve que la technologie, lorsqu'elle est bien utilisée, elle permet de rejoindre un maximum de personnes et ça peut être très positif, notamment dans le domaine de la santé. Depuis à peu près un an, le Centre de réadaptation Lucie Bruno et l'Institut de réadaptation Gingrand-Lindsay de Montréal planchent sur une plateforme d'information qui est à la fine pointe de la technologie, vous le verrez tout à l'heure, vous l'entendrez plus tôt, qui permettra de rejoindre un maximum de personnes à distance et d'améliorer des services très, très spécialisés, très, très spécifiques aussi, notamment en réadaptation. J'en parle à l'instant avec Brigitte Filion et Véronique Lavoie. Bonjour, mesdames.
Bonjour, Marianne.
Merci d'être là. Alors, je vous présente peut-être un petit peu plus en profondeur. Brigitte Filion, vous êtes pilote clinique télésanté pour le Centre intégré, CIUS, on va le dire une fois. Et après, on ne le dira plus. Donc, CIUS, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre Sud de l'île de Montréal. Et ce, au Centre de réadaptation Lucie Bruno, c'est important de le dire. Et Véronique Lavoie, vous êtes chargée de projet local télésanté au CIUS, aussi du Centre Sud de l'île de Montréal, à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Simplement vous présenter a pris 2 minutes. Merci, mesdames, d'être là. On parle aujourd'hui de cette plateforme. Plateforme d'intervention à la fine pointe de la technologie qui s'appelle REAC et qui permet de faire de la télé-réadaptation d'entrée de jeu. C'est quoi ça, de la télé-réadaptation?
En fait, la télé-réadaptation, tout simplement, c'est un autre mot pour dire que c'est de la télésanté. Donc, la télésanté, en fait, c'est que ça nous permet de faire une offre de service par les biais de la technologie de l'information. Donc, l'objectif pour nous de faire de la télé-réadaptation, c'était d'offrir des services, de faire une intervention à distance pour une clientèle qui pourrait avoir de la difficulté à se déplacer 2 à 3 fois par semaine au centre de réadaptation. Adaptation Lucie Bruno, soit par leurs conditions personnelles ou par les engagements sociaux que les personnes pourraient avoir au cours de leur processus de réadaptation.
C'est très novateur, très peu connu, très peu documenté au Québec. Pourquoi c'est important pour les institutions de santé, au Québec, mais ailleurs dans le monde, d'être à la fine pointe comme ça, de rester très, très actif sur les besoins de la clientèle?
En fait, la technologie nous permet, nous, dans nos vies personnelles, de répondre à plusieurs de nos besoins. Puis je crois que c'est important de reproduire la même chose dans le milieu de la santé. Donc, les technologies nous permettent de faire beaucoup de choses également dans le milieu de la santé. Il faut en profiter de ces technologies-là. C'est certain qu'avec l'arrivée de cette plateforme-là, React, cette plateforme-là, elle avait une particularité, c'est qu'elle répondait vraiment très bien à nos besoins. Mm-hmm. Dans le réseau de la santé, on a des besoins bien spécifiques. Un de ceux-là est la sécurité de l'information, des choses qui ne sont pas toujours répondues par d'autres outils informatiques. Donc, la plateforme React permettait ça. Et de plus, elle était facile d'utilisation et peu coûteuse. Donc, quand on a des conditions gagnantes comme ça pour utiliser la technologie, eh bien, il faut aller de l'avant, c'est ce qu'on a fait.
Oui. Vous dites, Véronique, et ça, c'est assez intéressant, répondre à nos besoins. Et j'entends par là, entre autres, les besoins des spécialistes de la santé. Et on le sait, vous avez de grands défis, notamment avec la réorganisation des centres de santé au Québec. Et l'approche professionnelle peut parfois peut-être être un peu... Bon, il y a moins de spécialistes, les équipes sont amoindries. Est-ce que c'est une façon aussi d'être plus efficace, d'être plus efficient pour vous?
En fait, la télésanté ou la téléréadaptation, notre objectif, c'était de faciliter l'accès aux services. Donc, il est évident que dans certains cas, si un ergothérapeute, par exemple, devait se déplacer vers le domicile d'un usager, bien, il est clair que pendant ce moment-là, bien, elle n'est pas au service direct de la clientèle. Mm-hmm. Donc, par le biais des rencontres face-à-face virtuelles que la plateforme React nous offre, bien, on peut... Évidemment, éviter tout le temps de transport, ce qui permet de desservir la clientèle d'une meilleure façon et plus rapidement aussi.
C'est vrai aussi, un autre aspect positif, en fait, qu'on va voir, on a décrit l'exemple ici où le thérapeute, en fait, doit se déplacer chez le client, mais on a aussi la situation où une partie de notre clientèle, de par leur déficience, c'est parfois un défi de se déplacer chez nous, et là, on ne répond pas à notre besoin, on répond vraiment à leurs besoins. Donc, on est en train de dire à des personnes pour qui le fait de venir, par exemple, en transport adapté 3 fois semaine, parce qu'ils ont perdu leur permis de conduire, n'ont pas de façon simple de se déplacer, sont très fatigués, bien, on est en train de leur donner des solutions concrètes pour répondre à leurs besoins de façon personnalisée en leur disant, par exemple, bien, savez quoi, vous pourrez venir une fois en personne et puis les deux autres fois, on le fera à distance. Comme ça, ça sera beaucoup moins fatigant pour vous et ensemble, on va quand même pouvoir atteindre nos objectifs.
En fait, si tu me permets, Véronique, il y a un exemple concret là, qui me vient en tête. On pense à une personne qui se déplace en fauteuil roulant. On sait que l'hiver, avec les conditions climatiques, les tempêtes de neige, donc on sait que ça peut être un défi de se déplacer vers le centre. Donc, la télésanté ou la téléréadaptation peut être un moyen de maintenir une intensité de thérapie.
Et moi, je pense aussi à l'indépendance de ces gens-là qui ont souvent besoin d'aide dans leur quotidien, d'avoir soit de l'aide à la maison ou encore des proches. Et pour se déplacer, c'est la même chose, mais là, ça leur permet d'être plus autonomes dans les soins qu'ils ont à avoir pour leur établissement. Et je pense aussi à un côté budget. Et ça, j'imagine que c'est tant pour la clientèle visée que pour les centres de santé.
Tout à fait. On est à l'ère où on doit optimiser, on a des défis financiers, on doit faire preuve de performance. Donc, Brigitte a donné un bon exemple tout à l'heure que nous, ça pouvait nous permettre d'économiser parce qu'on, par exemple, on avait moins de temps de déplacement. Mais vraiment, au niveau de la clientèle, on pense frais de taxi, de stationnement, etc. Donc, même de leur côté, il y a un avantage à ce niveau-là.
Mm-hmm. Est-ce que ça amoindrit les frais d'administration de votre côté?
Je dirais qu'à ce stade-ci, ce n'est pas nécessairement quelque chose sur lequel on pourrait se prononcer, mais à premier abord, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement un résultat qui est attendu.
On parle, et tantôt, Brigitte, je trouve que vous avez bien imagé le face-à-face virtuel, rendez-vous virtuel. Comment ça s'organise? On a besoin de quel genre d'outils pour se faire?
En fait, ce qu'il faut penser, c'est que cette plateforme qu'on utilise maintenant depuis novembre dernier, en fait, c'est une plateforme qu'on télécharge sur un ordinateur. Donc, ça prend de l'équipement informatique de base. On parle d'un ordinateur, une caméra, une webcam, des haut-parleurs. Donc, c'est de l'équipement qui est assez disponible et que majoritairement, beaucoup de personnes ont à domicile. Évidemment, on a besoin d'un lien Internet. Et on devient de plus en plus habitué avec les médias sociaux. On est capable de créer des profils et on est capable d'inviter des contacts. Donc, à partir du moment où le contact est établi, l'intervenant, à un simple clic, aussi simple qu'un appel téléphonique, peut faire une session en direct face à face. Donc, c'est sûr que la plateforme React a des fonctionnalités de base de ce type-là, mais on peut aller aussi dans des fonctionnalités beaucoup plus sophistiquées, mais ce qui n'est pas nécessaire dans tous les cas, mais c'est vraiment au besoin selon les objectifs d'intervention auprès de la personne.
Est-ce que ça peut être accessible pour les personnes qui vivraient avec une déficience visuelle?
C'est intéressant que vous apportiez cette question-là. En fait, ça pourrait être définitivement quelque chose qui serait envisageable. Nous, Brigitte et moi, on travaille en fait dans une direction bien spécifique du CIUS, donc la direction de la déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l'autisme et de la déficience physique. Et notre direction s'est donnée comme mandat d'étendre ce projet-là à d'autres clientèles, notamment dans notre cas, puisqu'on n'a pas de mandat de déficience visuelle, on a un mandat de déficience auditive. Donc, on peut voir l'intérêt pour cette clientèle-là, par exemple, qui communique par langage signé. Donc, le fait d'avoir une plateforme où on peut se voir en face à face, il y a réellement un intérêt. On pense également à la clientèle avec un trouble de langage. Donc, on va définitivement chercher à optimiser et à étendre ce projet-là à d'autres clientèles qui présentent une déficience d'un autre type.
C'est fascinant. D'ailleurs, ça m'amène à cette question. Ça s'adresse à qui, cette plateforme React?
En fait, la plateforme React ne s'adresse peut-être pas à une clientèle avec une maladie en particulier. C'est plutôt selon les besoins d'intervention clinique. Donc, à partir du moment où il y a un besoin, une difficulté de se déplacer vers le centre et que l'intervenant également pourrait sentir là, que son plan d'intervention peut s'actualiser ou peut se réaliser par le biais là, de cette plateforme-là. Donc, c'est plutôt de cette manière-là qu'on choisit ou qu'on propose la téléréadaptation là, auprès de la clientèle.
En fait, il faut savoir, ça ne convient pas à toutes les situations. Il y a vraiment une analyse qui est au cas par cas, mais c'est vraiment l'usager et son intervenant qui, ensemble, là, doivent sentir qu'ils vont pouvoir travailler ce qu'ils ont à travailler, même s'ils sont à distance. Donc, il y a des choses qui ne se font pas très bien à distance. Il y a des choses qui se travaillent très bien à distance. Notamment, on a eu beaucoup d'essais qui ont été faits dernièrement en psychologie, en orthophonie. Donc, ça, c'est vraiment des disciplines où ça s'actualise très bien.
Parce que si l'on pense, par exemple, à une approche en réadaptation avec un physiothérapeute, moi, d'entrée de jeu, je vais penser à un toucher. On a besoin d'être déplacé, on a besoin, bon, le spécialiste de la santé a besoin vraiment de faire une intervention de proximité. Ça, j'imagine que c'est un petit peu moins adéquat quand on parle de téléréadaptation. Véronique, vous ne semblez pas si d'avis que ça.
En fait, quand je parle, c'est au cas par cas, c'est vraiment un exemple. Donc, on a eu, par exemple, des situations où un patient avait besoin de faire ses exercices régulièrement et avait besoin d'être suivi, donc pour s'assurer que ses exercices étaient bien réalisés. Donc, on a vraiment fait des suivis en ergothérapie, en physiothérapie de ce type-là, puisque l'intervenant à distance surveillait que les exercices étaient bien réalisés. Mm-hmm. Par contre, pour la même discipline, on pourrait penser qu'un physiothérapeute qui a besoin, par exemple, de toucher un patient qui a des troubles d'équilibre et qui risque de tomber, dans ce cas-là, donc, ça ne s'appliquerait pas. Donc, c'est vraiment au cas par cas.
Et l'ouverture des patients, elle ressemble à quoi? Est-ce que la réception est bonne?
De manière générale, on peut dire que les gens sont enthousiastes, mais ils sont très, très, très satisfaits d'avoir reçu des services par le biais là, de la technologie. Je pourrais vous donner quelques exemples où on est intervenu auprès de parents qui vivaient une situation d'handicap. Donc, pour eux, ça leur a permis d'avoir une évaluation dans leur domicile des soins qu'ils auraient à apporter au bébé. Dans ce cas-là, on est satisfait et on a l'impression d'avoir atteint nos objectifs thérapeutiques. On en est très fiers.
Est-ce que certains sont réfractaires par cette technologie parce qu'ils se disent moins habiles, moins à l'aise?
Il faut savoir que ça fait partie des critères qui sont observés, donc qui sont retenus. En fait, là, quand on doit identifier un client potentiel, on va regarder différentes choses, notamment le niveau de connaissance informatique, s'assurer que la personne a des équipements qui conviennent, bien qu'il arrive qu'on passe des équipements. Et on doit aussi avoir l'accord de la personne. Donc, comme c'est pour répondre aux besoins de cette clientèle-là, si un client était réticent à l'idée, eh bien, il ne sera pas retenu pour le projet. Donc, le but, là, c'est pas de faire de la téléréadaptation coûte que coûte, c'est d'en faire lorsque ça répond à leurs besoins.
Oui. Oui, et que ça peut avoir vraiment des impacts positifs. On parle d'un rendez-vous qui est hebdomadaire ou encore là, c'est du cas par cas?
C'est du cas par cas, mais par exemple, je pourrais... On a deux types d'interventions qui sont faites. Ça pourrait être une intervention qui se répète dans le temps à raison d'une rencontre par semaine. Et on a des évaluations qui sont faites plus de type ponctuel. Donc, ça pourrait être une ou deux rencontres et après, c'est terminé. Ça dépend. C'est du cas par cas.
Mm-hmm. Et maintenant, bon, c'était un projet pilote. Est-ce que ça a été assez concluant pour que vraiment ça prenne assise et que ça soit une façon de procéder dans votre quotidien avec vos équipes respectives?
Alors, actuellement, notre projet, il n'est pas complété encore, puis il faut savoir qu'il fait l'objet d'une évaluation. Donc, nous, on se posait la question, justement, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les gens sont satisfaits? Le projet n'est pas terminé, l'évaluation n'est pas terminée, mais ce qu'on a déjà comme résultat nous dit qu'on devra aller de l'avant. Je crois que ça va définitivement répondre à des besoins qu'on aura dans le réseau de la santé dans les années qui s'en viennent avec les défis qu'on aura. Donc, définitivement, on va aller de l'avant et comme je le disais tout à l'heure, on va chercher à l'étendre à d'autres clientèles.
Est-ce que c'est un modèle dont vous vous êtes inspiré, qui pourrait se dérouler dans d'autres centres de la santé dans le monde ou c'est vraiment propre ici au Québec?
En fait, au Centre de réadaptation Lucie Bruneau, on fait de la télésanté ou de la téléréadaptation depuis quand même quelques années. Puis, plus particulièrement, le projet sur lequel on travaille actuellement avec la plateforme REACT, c'était un des souhaits, c'était d'avoir la possibilité d'exporter ce modèle de prestation de services-là à d'autres volets du réseau de la santé. Donc, on sait que actuellement, l'équipe de Dr Beaulieu travaille aussi avec d'autres établissements, dont notamment pour le suivi des soins de plaies. Ouais. Il y a également l'utilisation de cette plateforme-là en chirurgie. Donc,
Et c'est une façon aussi de joindre des gens, oui, qui sont à mobilité dite réduite, mais en même temps qui sont en région éloignée. On sait, le Québec, c'est une province extrêmement vaste et les gens ne sont pas facilement joignables partout.
Tu as tout à fait raison. En fait, Marianne, actuellement, comme Véronique le disait, on regarde à utiliser cette modalité en déficience auditive et du langage. Et plus particulièrement, dans ce modèle-là, on vise à développer des partenariats avec les centres de réadaptation en région qui auraient besoin là, d'avoir accès à un service surspécialisé.
Mm-hmm. Véronique, tout à l'heure, vous disiez que vous travaillez avec des clientèles qui vivent avec une déficience intellectuelle. Est-ce que ces gens-là ont besoin d'accompagnement?
En fait, pour préciser, avec la nouvelle réorganisation du système de la santé, on est maintenant regroupé la déficience physique avec la déficience intellectuelle. Donc, Brigitte et moi travaillons dans une direction qui couvre ces deux clientèles-là, mais le projet actuellement est vraiment au niveau de la déficience physique. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'éventuellement, il pourra avoir une extension vers la déficience intellectuelle? Potentiellement. Donc, mm-hmm. c'est quelque chose qui sera à évaluer. Et en fait, dans plusieurs domaines, il pourrait y avoir des applications, même dans la santé en général.
Oui, oui. Et bon, on parle le mot potentiel, bien sûr, nous amène à la fin parce qu'il y a des perspectives d'avenir qui sont plutôt intéressantes avec la plateforme REATS. Notamment, on parlait des gens qui vivent avec une déficience visuelle, déficience intellectuelle. Vous entendez quoi pour l'avenir avec la plateforme?
En fait, les évaluations vont se faire en partenariat avec l'administration, avec la direction de l'établissement, du CIUS. Et puis, en fait, ça va être au niveau de l'organisation. On sait qu'on est dans un grand bouleversement du réseau de la santé actuellement, ce qui fait qu'il amène probablement une opportunité d'implanter ou de développer la télésanté. Donc, ça va être en collaboration avec les différents programmes, les différentes directions où on aura à identifier les opportunités dans chacune des différentes sphères des soins de la santé.
Et de pouvoir développer des clientèles aussi.
Oui.
Oui, et également du côté des gens qui travaillent sur le terrain, je dirais que ce qui les attend dans le futur, c'est de réellement intégrer cette façon de faire-là dans leur pratique. C'est sûr qu'actuellement, on parle d'un projet pilote, donc ça a un petit quelque chose de spécial pour l'intervenant quand il va procéder de cette façon-là. Ça les sort de leur zone de confort. C'est pour eux aussi une nouvelle façon de fonctionner. Donc, ce qu'on s'attend dans le futur, c'est que ça soit vraiment entré dans les habitudes et puis que ça fasse partie de ce qui est régulièrement fait par les intervenants. Donc, ça aussi, là, de la même façon qu'on a intégré les technologies à la maison, etc., ça fait maintenant partie de notre quotidien. Oui. Donc, on s'attend un petit peu à cette habituation-là dans le cadre de leur travail.
Et lorsqu'on parle des intervenants ergothérapeutes, physiothérapeutes, des médecins aussi?
Potentiellement également, c'est à voir. Donc, au niveau médical, il y a définitivement des besoins. Au niveau réglementaire, c'est un petit peu plus compliqué quand on parle de pratique médicale, mais c'est loin d'être impossible de penser qu'on aura ça dans quelques années.
Mais du moins, ce que l'on retient, c'est que ce bouleversement au sein du milieu de la santé que l'on vit en ce moment et que vous vivez vraiment, vous en êtes les premiers témoins, ça aura amené à cette opportunité de créer des liens entre les diverses organisations pour unir vos forces, vos expertises, oui, et votre créativité, parce que c'est assez novateur, comme on le disait d'entrée de jeu, donc cette plateforme d'intervention REATS qui se fait en lien aussi avec le Centre de coordination et de référence du RUIS de l'Université de Montréal, qui collabore avec vous aussi, mesdames. Brigitte Filion, pilote clinique télésanté pour le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal du Centre de réadaptation Lucie Bruneau, merci. Véronique Lavoie, chargée de projet local télésanté CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, merci beaucoup de votre participation. On suivra ça de près.
Merci.
Merci beaucoup.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Francine Lefrançois, bonjour.
Bonjour.
On vous joint du côté de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Voilà.
Est-ce qu'il fait beau là-bas?
Très beau.
Ben, comme à Montréal.
Oui, bon.
On a de la chance.
Oui.
Francine, vous êtes secrétaire administrative de cet organisme Santé à cœur qui a comme mission de faire bouger les personnes âgées. Vous savez comment j'ai entendu parler de vous, Francine? C'est par l'un de vos usagers, Michel Langlois, qui vit avec une déficience visuelle et qui, lui, participe avec son chien ou participait du moins à vos randonnées. Bien sûr, Michel a un profil plutôt particulier. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec une limitation, qui participent à vos activités?
Non, Michel est le seul, mais je vous dirais qu'en plus des randonnées pédestres, il fait aussi du vélo en tandem. Alors, puis il n'est pas le dernier de la file.
Non, mais... il est assez en forme,
oui.
Michel Langlois. Et d'ailleurs, c'est votre but, Francine Lefrançois, de permettre aux personnes âgées soit de retrouver la forme, de garder la forme par l'activité physique. On parlait de randonnée, vélo tandem. Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités que vous proposez?
Oui, on a plusieurs activités, dont vie active. Ce sont des exercices physiques. On a aussi le yoga, le tai chi. On a le badminton en soirée, c'est la seule activité qui s'offre en soirée. On a, comme je vous disais, les randonnées pédestres, on a 3 niveaux de randonnée. Puis on a aussi, pour compléter, la gymnastique du cerveau.
Ah oui.
Ce sont des exercices de mémoire pour développer la mémoire ou la conserver le plus longtemps possible.
Parce qu'on le sait, la santé cognitive, ça interpelle beaucoup les personnes les personnes aînées, hein, qui ont envie de conserver leur mémoire et leurs réflexes cognitifs.
Exactement.
Oui. Comment ça a été créé, Santé à cœur?
Bon, ça a été créé il y a 15 ans par un groupe de... environ 6 personnes. Mm-hmm. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est 5, 6 ou 7, là, mais c'est environ ce nombre-là. Ce sont des personnes qui étaient intéressées à fonder un organisme qui s'intéresse à la santé des gens, mais qui se donnait aussi comme mandat d'informer les membres en matière de prévention et de mieux-être. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, il y a 15 ans, il y avait seulement l'aquaforme qui était offert et les randonnées pédestres.
Dans votre région, toujours?
Toujours dans la région. Puis l'année suivante, bien, ils ont offert l'activité vie active. Et puis par la suite, bien, les autres se sont ajoutés, le yoga, tout ça. Maintenant, on a toutes les activités que je vous ai nommées.
Il y a aussi des ateliers plus de... des activités plus de type atelier, de conférences également. Quel sujet vous abordez?
On a 2 à 3 conférences par année. Puis les sujets, bien, c'est assez varié. Mais disons qu'on a déjà eu un pharmacien qui parlait de médication et des effets secondaires. On a aussi 2 infirmières retraitées qui nous ont parlé de vieillir en santé. Mm-hmm. On a eu justement Michel Langlois qui nous a offert une conférence sur la motivation.
Ouais.
Puis il était vraiment bien placé pour nous offrir cette conférence-là. Ensuite, on a eu les questions légales là, par 2 notaires. On a eu aussi un atelier sur comment apprendre à lâcher prise. Et puis, on a eu les services gouvernementaux offerts aux aînés. Là, il y avait 2 représentantes qui étaient venues rencontrer les gens pour leur offrir les différents services du gouvernement.
Francine, est-ce qu'il y a des obstacles à joindre cette clientèle? Je pense, par exemple, à la mobilité qui peut être parfois réduite lorsque l'on vieillit. On a peut-être plus peur de sortir, d'être actif. Comment vous faites pour attirer les gens?
Je pense que c'est beaucoup aussi par le bouche à oreille parce que, disons que, comme pour nos randonnées pédestres, on avait une randonnée depuis, disons, 5 ou 6 ans en nature, là, dans les boisés, tout ça. Puis c'est sûr que d'année en année, les gens amélioraient leur qualité, leur performance, si on veut. Alors, les gens qui avaient un peu moins d'habilité physique ne participaient plus. Alors, depuis 1 an, on offre 2 autres randonnées pédestres. Une marche urbaine qu'on appelle dans les rues de Saint-Gabriel, les rues où il n'y a presque pas de circulation. Puis, l'autre niveau, c'est, on appelle ça remise en forme. C'est pour des gens soit qui ont subi une opération, soit des gens qui sont vraiment, qui n'ont pas participé beaucoup à des activités physiques. Alors, c'est de cette façon-là qu'on les regroupe, mais souvent, les personnes se connaissent et s'en parlent. Puis je vous dirais que la première session commençait cette semaine et la première activité. Puis on a énormément de participation. Oh. Fait qu'on, c'est vraiment du bouche à oreille. Les gens se rendent compte que c'est intéressant, c'est agréable. Puis les activités qu'on fait en groupe, bien, c'est toujours plus stimulant que de les faire tout seul à la maison.
Bien, c'est une façon aussi de briser l'isolement.
Exactement, oui. Parce que par ces activités-là, bien, souvent, ils entendent parler d'autres choses, soit une conférence offerte par nous ou ailleurs, mais c'est ça, il y a une très bonne communication entre toutes ces personnes-là.
Francine, on dirigera les gens vers votre site www.santéacoeur.org parce qu'ils peuvent, j'imagine, continuer à s'inscrire pendant la session.
C'est
très rapidement.
Oui, suite à la visite de notre site Internet, c'est sûr que s'ils téléphonent, ils vont avoir encore plus d'informations.
Bon, bien, on les dirigera, bien sûr, à vous parler. Vous êtes tellement gentille, Francine Lefrançois. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Marianne Paquette au micro, Christiane Campagna à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde. Merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous, nous, dès demain, 14h. Soyez là, portez-vous bien. Bye-bye.